Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de Radio Bouton. Morgane et moi sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui dans une nouvelle émission spéciale lecture pour les vacances avec différents invités en plateau.
Bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas remettre les prénoms de tout le monde, mais je vais peut-être y arriver. Victorine, Emeline, Freddy, Juliette,
Maë
et Léa.
C'est ça. Voilà, bravo Morgane.
Je vais finir par y arriver. En plus, on est moins nombreux que d'habitude, donc normalement, je devrais pouvoir remettre les prénoms de tout le monde avec la tête de tout le monde. Alors, nous n'avons pas d'enfants ce soir, donc nous ne terminerons pas le dico animaux.
De Thomas, habituel.
Oui, nous ne terminerons pas le dico animaux, c'est pas grave, on se donnera peut-être rendez-vous à la rentrée pour terminer le dico animaux. Mais je vois que vous avez amené plein de livres. Alors, qui veut commencer à présenter un petit peu le menu de ce soir?
Ça va être riche et varié, hein. Ce sont les vacances, alors...
Tout le monde se regarde. Non, pas moi, je ne veux pas parler le premier.
Allez, on se lance.
D'accord,
qu'est-ce qui se lance? C'est bon.
J'y vais. Alors moi, j'ai pris « Nous, les menteurs » d'Emily Lockhart et « L'alchimiste » de Paulo Coelho.
Donc je suis, hein. J'ai pris « Celui qui n'était pas un meurtrier », alors les noms de George N. Rosenfeld. J'ai pris « Baptiste Beaulieu, tous les silences ne font pas le même bruit ». Et enfin, le prix à payer, pourquoi le couple hétéro appauvrit les femmes et nuit à l'amour, de Lucille Quillet et Tiffany Cooper.
Alors, moi j'ai pris différentes choses aussi, j'en ai d'autres dans le sac, je verrai, peut-être je changerai, ça changera de menu. Mais sinon j'ai pris le sel de la vie, parce que dans un menu il faut toujours du sel, de Françoise Héritier. Un extrait de Franz Bartelt, auteur local, petit éloge de la vie de tous les jours, ça sera une chronique. Et puis, comme c'est les vacances, les voyages, un extrait d'un bouquin, je ne sais plus qui j'ai choisi, mais c'est un recueil, l'invention du voyage, avec plein de personnes qui parlent de la thématique du voyage.
Et moi, je vous propose de découvrir votre point d'équilibre de Brian Tracy et Christina Sten, et Croyez en vous-même de Joseph Murphy.
Donc, retour du développement personnel.
Yes.
Pour ma part, j'ai pris...
Plus proche du micro.
Plus proche. Donc, pour ma part, j'ai pris Un retardement de Franck Tillier, La sage-femme de Berlin d'Anna Stuart, Ce que disent les silences de Laure Manel, et puis le petit dernier que je me réserve pour la rentrée seulement, Mémoire d'un expert psychiatre, d'Angelina Delcroix.
Ici, on a du Barjavel, on a Le voyage de la mouette avec Désiré Aziz et André Ratio. J'ai pris du John Joss et puis je voulais aussi un tout petit peu parler de La femme de ménage.
Et moi j'en ai pris qu'un et en plus j'ai même pas pris le roman de fantasy que je me traîne depuis deux émissions et que j'ai jamais le temps de lire. Mais j'en ai pris qu'un. Du coup j'aurais peut-être dû en prendre deux parce qu'on n'est pas nombreux. J'ai pris Cercueil et préjugés. Cercueil et préjugés, c'est une romance feel good, un peu barrée. Où en fait l'héroïne retourne chez elle après deux mois un peu éloignée de tout, elle rentre chez elle et en fait il y a un inconnu chez elle. Et en fait il y a un inconnu chez elle, bon on racontera plus tard pourquoi il y a un inconnu chez elle. Elle rentre chez elle, il y a un inconnu chez elle.
Ouais, c'est peut-être un peu pour se moquer d'Orgueil et préjugés ou c'est très...
Non, je pense que le titre est plutôt un titre hommage qu'un titre de moquerie.
Ah d'accord.
Mais c'est que, bon si, bah, en fait le lien avec le cercueil c'est qu'en fait elle rentre chez elle, il y a un inconnu chez elle parce que cet inconnu a signé un bail et si cet inconnu a pu signer un bail pour le même appartement qu'elle, c'est parce qu'elle est déclarée morte par l'administration.
Ah,
voilà. Donc d'accord. Tout le truc du roman c'est que bah, elle va devoir prouver à l'administration française, bien connue administration française, que si elle est bien vivante en fait. Voilà.
D'accord.
Et c'est barré, c'est drôle, c'est frais et voilà.
C'est bien pour les vacances.
C'est bien pour les vacances.
Alors moi j'ai pris des livres que j'ai choisis suivant leur titre. Je ne les ai pas encore lus. Donc il y a Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne. J'adore cette expression, faut pas pousser Mémé dans les orties. Et aussi Aurélie Valogne, Née sous une bonne étoile. Et un peu quelque chose qui va rejoindre Maë, Michel Perrault. Je ne sais pas si vous connaissez Michel Perrault, qui est une grande historienne des femmes qui s'occupe...
Pionnière en histoire des femmes.
Voilà, et donc mon histoire des femmes, que j'ai pris au CDI, l'Institut de formation, parce qu'on l'avait, je ne l'ai jamais lu. Et je suis en train de lire Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire aussi.
Ah, celui-là, je l'ai lu, je me souviens,
il est très bien. Voilà. Il est très bien aussi. Donc voilà.
Et donc moi, je vais partir sur le premier chapitre de Cercueil et préjugés de Catherine Fanvan. C'est publié aux éditions Alter Réel. Et donc pour les auditeurs qui nous rejoignent en cours de route... qui n'était pas là quand j'ai présenté le roman tout à l'heure. C'est un roman feel good avec une romance en arrière-fond. Et donc l'héroïne Adélie a passé quelques mois loin de tout. Et quand elle rentre chez elle, il y a quelqu'un chez elle. Et c'était pas du tout prévu qu'il y ait quelqu'un chez elle, parce que ce quelqu'un est un inconnu. Voilà. J'ai toujours considéré mon patronyme comme ma petite malédiction personnelle. Si mon prénom, Adélie, guère courant, me vaut parfois des remarques d'une subtilité toute relative sur une hypothétique passion vouée par mes parents au continent antarctique, mon nom, quant à lui, se situe à un autre niveau. Il ne laisse jamais personne indifférent. À chaque fois que j'effectue une réservation ou que je dois récupérer un colis, je sens monter en moi la même lassitude blasée. À quoi m'attendre ? Amusement ? Surprise ? Incrédulité ? Je ne sais pas auquel de mes divers interlocuteurs je décernerai la palme de l'indélicatesse. Peut-être bien la secrétaire de l'hôpital, il y a de cela quelques années, j'y accompagnais mon meilleur ami qui devait subir une opération bénigne. Quand il m'a désignée comme personne à contacter en cas d'urgence, cette petite femme aux cheveux gris et au visage fripé a levé au ciel des yeux exaspérés avant de s'écrier sur un ton guindé « Vous vous croyez drôle ? Je fais un travail sérieux, je vous signale. On ne badine pas avec les informations qui figurent dans les dossiers des patients ici. » Je dois avouer que les rires moqueurs et les plaisanteries insipides que suscite l'énoncé de mon nom ne m'ont pas manqué au cours des trois derniers mois. Échapper à l'humour médiocre de mes semblables ne constitue pas l'un des moindres avantages à vivre coupé du monde. Pourtant, je ne peux pas continuer à me terrer ainsi dans le trou du cul de la France jusqu'à ce que mort s'en suive. Un jour ou l'autre, il me faudra bien revenir à une vie normale. Et ce jour-là est arrivé. Ce matin, j'ai donc quitté les tréfonds du Massif central pour regagner mes pénates bordelais. Via Paris, bien sûr, car pour la SNCF, les itinéraires les plus courts passent tous par la capitale. Après un trajet beaucoup trop long en tortillard désert, puis ce qui m'a semblé une éternité dans des rames de métro puantes et bondées, me voici enfin assise dans le TGV. D'ici moins de 3 heures, je serai chez moi. J'ai hâte de pouvoir me couler sous la douche. Une bonne douche bien chaude dans une vraie salle de bain. Bon sens que ça m'a manqué. Au-dessus de ma tête, les haut-parleurs grésillent, j'ôte un écouteur et dresse l'oreille, pourvu qu'un incident ne vienne pas gâcher la fin de mon voyage. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît, ici votre chef de bord. Pour votre sécurité, je vous rappelle que l'étiquetage des bagages est obligatoire. Lors de vos déplacements dans le train, pensez à vous munir le blabla habituel. Rien d'intéressant. Je me réinstalle confortablement, augmente le volume de ma musique et ferme les yeux. Je ne sais pas combien de temps je me suis assoupie. L'agitation qui règne dans le wagon me tire de ma somnolence. Je soulève une paupière et me redresse aussitôt sur mon siège. Pas de doute, il se passe quelque chose. L'homme assis à côté de moi, un petit brin nerveux, remue sa jambe gauche avec frénésie. Il tourne la tête dans tous les sens. Au milieu de ce brouhaha confus, plusieurs personnes se sont levées et dévisagent les autres passagers d'un regard suspicieux. Le contrôleur progresse dans l'allée et s'entretient tour à tour avec chaque voyageur, la mine préoccupée. Je me sens blêmir. Tout ça n'augure rien de bon. J'arrache mes écouteurs de mes oreilles et agrippe le coude de mon voisin pour attirer son attention. « Vous savez ce qui se passe ?» Il se tourne vers moi et éponge son front de son avant-bras. La manche de sa chemise est trempée. Un effluve âcre chatouille mes narines. Quand je pense que depuis des décennies, des rumeurs circulent au sujet de la transpiration des roues, calomnie ! Malgré la teinte aussi naturelle que flamboyante de ma folle tignasse, je n'ai jamais sué autant que ce type. Ses yeux exorbités par un apparent début de panique peinent à se fixer aux miens. Ses lèvres se retroussent sur ses dents en une parodie de sourire. Quelqu'un a trouvé un bagage suspect. Et il a fallu que ces tarés l'aient mis pile dans notre wagon. Vous y croyez, vous ? Sa voix tremble tant qu'elle fait d'innombrables pointes dans les aigus. Il a presque réussi à me faire peur, ce Benet. Je réprime un ricanement. Il ne doit pas prendre souvent les transports en commun. Je sens la couleur revenir à mes joues. Je hausse les épaules et tente de l'apaiser. Un bagage suspect ? Bah, détendez-vous, ça arrive tout le temps. Encore quelqu'un qui a oublié de mettre son nom. Je me renfonce déjà dans mon siège quand le glapissement strident qu'il pousse fait à nouveau refluer le sang de mon visage. Ah ah, si seulement ! Mais non, c'est des tarés, je vous dis. Ils l'ont étiqueté, leur foutue valise. Et vous ne devinerez jamais ce qu'ils ont marqué. Ma parole, il flippe bel et bien. Il s'essuie le front une fois de plus. Deux grandes auréoles tachent ses aisselles. Son teint est cireux, je me demande tout à coup s'il ne va pas me dégobiller dessus. Et cet abruti trouve quand même le moyen de me faire mariner. Je le vois essayer de ménager son petit effet. Ça me donne une furieuse envie de le baffer. Vas-y, bordel, crache le morceau. Je me retiens d'énoncer mes pensées à voix haute et me contente de lui adresser un regard éloquent. Il ne s'en formalise pas, l'a-t-il d'ailleurs remarqué. Et s'exclame « Inconnu !» Merde, c'est pas vrai. Je me tais. Comme si je n'avais pas compris, l'autre crétin me répète d'un ton triomphant. Non, inconnu. Puis sans transition, il se roule en boule sur lui-même et se met à frissonner et claquer des dents. Il commence à marmonner en boucle. C'est des terroristes, j'en suis sûre. Ils ont écrit ça pour se foutre de notre gueule. Il a fallu que ça tombe sur notre wagon. La mâchoire crispée, je le secoue. Laissez-moi passer. Il me fait non de la tête. Restez à nos places pour que le personnel de bord puisse interroger tout le monde. Voilà ce qu'on nous a demandé de faire. Vous croyez vraiment que je ne serais pas barré le plus loin possible sinon ? Je soupire, me lève et interpelle le conducteur. Monsieur, s'il vous plaît. L'homme fronce les sourcils dans ma direction. Vous pouvez attendre 5 minutes, madame. J'arrive bientôt. Nickel, super aimable type. Les regards désapprobateurs des autres passagers convergent vers moi. Je ressoupire. Autant m'en débarrasser tout de suite. Je suis déjà blasée par ce qui va suivre mon annonce. Laissez tomber. Elle est à moi. La valise. Inconnue, c'est mon nom. Par chance, la fin du voyage s'est déroulée sans nouvel incident. Du moins si je ne tiens pas compte des gloussements peu discrets de mon voisin qui a passé cette dernière heure à échanger des blagues douteuses sur mon patronyme via messagerie instantanée avec tout son répertoire téléphonique. Pitoyable, j'en suis verte. Et presque autant que mes iris, si je veux moi aussi donner dans le jeu de mots subtil. Enfin, je ne sais pas trop ce que j'espérais de toute façon. Que le niveau de mes semblables se serait soudain amélioré par miracle en mon absence ? Comme ça, sans raison particulière. Alors qu'à 29 ans, j'en ai passé autant à subir leurs moqueries à ce sujet ? Quelle idée. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, notre TGV va entrer en gare de Bordeaux-Saint-Jean, crache le haut-parleur. Oui, oui, Simone, je le vois bien qu'on arrive. Ça fait déjà un moment que je suis debout en face de la porte, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Enfin, la rame s'immobilise. Bordeaux, me voilà. Douche, moins 20 minutes. Je trépigne d'impatience. Je ne pensais pas que ce retour au bercail me ferait un tel effet. Après tout, quand je suis partie, j'étais plus que contente de couper les ponts. De me retrouver seule avec moi-même, de pouvoir prendre le temps de me lamenter sur mon sort, de ne plus avoir à jouer le rôle de la nana inébranlable, capable de tout encaisser sans broncher. Il faut croire que ces 3 longs mois d'hiver, passés à savourer le confort spartiate d'un mobil-home loin de mes amis, dans un camping pourri au beau milieu d'un bois enneigé, étaient juste ce dont j'avais besoin pour me requinquer et me donner l'envie de regagner la civilisation. Oui, même si ça implique de me coltiner les débiles qui se marrent quand ils apprennent mon nom, me lamentais-je en jetant un coup d'œil à ma valise et son étiquette. Je traîne derrière moi l'objet de mes derniers déboires, direction l'arrêt de bus. J'ai hâte de caresser Estia, cette sipi m'a manqué. Bien sûr, j'aurais pu l'emmener avec moi. Seulement, pas sans démolir mon alibi. Et ça, hors de question. Car je refuse d'inspirer la pitié. À qui que ce soit, même Rafoutina. Une voix me soustrait à mes pensées. « Pardon, vous attendez le 9 ?» J'acquiesce. La femme secoue la tête. « Il ne passera pas, il y a un mouvement social sur la ligne. » Solidarité avec le chauffeur qui s'est fait agresser en début de semaine. Aïe, c'est cela aussi, la civilisation. Les violences gratuites. J'espère qu'il n'est pas blessé trop grièvement. Je remercie la passante avant d'esquisser une grimace. Le 10, et je termine à pied ou le tramway ? J'ai la flemme de marcher. Va pour le tram. Tant pis s'il me faudra plus de temps qu'en bus. L'occasion de traverser toute la ville. Circuit touristique intégral. Ma chère douche, ne te leurre pas. Ce n'est que partie remise. Tu ne perds rien pour attendre. La nuit étire son obscurité le long des rues. Elle tombe encore tôt, en cette fin février. Assise face à la fenêtre, sur le bleu sombre du ciel, je regarde les façades défiler. Je me souviens de mon enfance, quand elles étaient si noires qu'on ne discernait pas la couleur de la pierre. Place de la Bourse, le miroir d'eau. Si on m'avait dit qu'un jour, les familles viendraient flâner sur les quais. Je songe aux entrepôts lugubres de l'époque, aux cauchemars qu'ils éveillaient chez la fillette que j'étais alors. Leur simple évocation suffit à déclencher en moi un frisson d'effroi. Les quinconces. J'ai de la chance, pas besoin d'attendre pour ma correspondance. Le grand théâtre, la librairie Mola. Tiens, il faudrait que je vienne y faire un tour bientôt. 3 mois sans acheter de livres, comment diable ai-je réussi à survivre ? Paye Berland. Hé, les arbres de la Creuse, visez un peu la taille de cette tour, vous feriez moins les malins à côté d'elle, je vous le garantis. La Victoire. Lorsque je descends à la station Barrière Saint-Jeunesse, j'ai le sourire aux lèvres. Bordeaux, je t'aime, tu es sublime. Dire qu'il a fallu que je te quitte pour en prendre conscience. J'avance le long de la rue du Bourdieu, les yeux levés vers le mince quartier de lune montante qui se détache à l'horizon. Un coup de vent soudain me plaque des frisottis sur le visage. D'un geste machinal, je saisis la mèche vagabonde et la coince derrière mon oreille. Rien n'a changé ici. La semelle élastomère de mes baskets ne produit aucun bruit au contact des pavés du trottoir, seul le ronronnement distant du trafic sur les boulevards et le frottement irrégulier des roulettes de ma valise rompent le silence ambiant. Le calme qui règne dans cette artère à taille humaine, bordée d'échoppes bordelaises typiques, accroît le sentiment de plénitude qui m'a envahi lors de la traversée de la ville. Un peu plus loin, je m'engouffre dans le hall de mon immeuble, un bâtiment modeste de 3 étages, pourtant l'un des plus hauts du voisinage. Je m'arrête un instant, cueilli par l'odeur d'agrumes familière du détergent que Monsieur Morgot, le gardien, utilise matin et soir pour lessiver consciencieusement le sol de l'entrée, carrelé d'un beige trop salissant. Mes lèvres s'étirent en un sourire serein. Je suis de retour chez moi et je m'en réjouis. Même trimballer ma valise à pied dans l'escalier jusqu'au 2e ne parvient pas à entamer mon humeur guillerette. Je tourne la clé dans la serrure de mon appartement, pousse la porte, puis un hurlement. Face à moi, un inconnu. Notez l'absence de majuscule. Je ne parle pas d'un membre de ma famille, hein, mais bien d'un type que je n'ai jamais vu. Un inconnu, donc. Et même pire que ça, un inconnu complètement à poil, sur le seuil de ma salle de bain. Je mets une fraction de seconde à retrouver mes esprits. Alors que je le houspille, mes aigus ne sont pas sans rappeler ceux de mon voisin de TGV. « Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes qui d'abord? Sortez de chez moi tout de suite ou j'appelle la police ?» Un type, un brun gigantesque, cheveux en bataille, barbe de trois jours, le genre dont j'aurais peut-être pu apprécier l'anatomie en d'autres circonstances, reste planté devant moi, bouche bée à cligner des paupières. Il est sourd ou quoi? Je tends un bras autoritaire en direction de la porte d'entrée. « Vous avez une banane dans l'oreille? Je vous ai dit de dégager !» Il referme sa douche et semble prendre conscience seulement maintenant de sa tenue. Je le vois viré écarlate, tandis qu'il place ses mains croisées devant son entrejambe. Il plisse les yeux, me toise de la tête aux pieds, plante enfin son regard dans le mien et me sort avec un mépris qui me fait l'effet d'un uppercut. Je n'arrive pas à savoir, vous êtes saoul ou bien drogué? Et ainsi se termine le premier chapitre de cette histoire.
Trop cool.
Ça a l'air sympa.
Voilà, donc j'ai pas lu la suite, je sais juste que c'est un peu barré, quoi. Et donc tout le roman, c'est comment est-ce qu'elle va pouvoir prouver à l'administration française que bah, elle a envie, en fait.
Ouais, ça doit être bien. Moi, je veux bien que tu me le prêtes quand tu l'auras lu.
Très bien.
Et j'ai une question, est-ce que depuis tout ce temps, c'est toi la voix des trains?
Non, pas du tout, ce n'est pas moi la voix des trains, mais j'aurais adoré faire la voix des trains.
Ça c'était Simone, la voix des trains.
Ouais, c'est toujours elle. Hein.
Non, elle est en retraite, Simone.
En retraite.
Ouais, elle est en retraite.
Mais je crois qu'ils ont enregistré, en fait, j'avais vu un petit sujet sur elle, où en fait, maintenant, comme, enfin avant sa retraite du coup, elle enregistrait plus tout d'un coup, elle enregistrait juste les numéros de voix qui manquaient. Par exemple, s'il n'y avait jamais eu de voix 38, elle allait en studio juste pour enregistrer 38. Et ensuite, ils recollaient voix 38, et elle n'enregistrait que le 38, parce qu'ils avaient déjà, l'enregistrement pour voix, donc elle enregistrait que les mots qui manquaient, ou les noms des gares qui manquaient, etc.
Je crois que c'est des voix de synthèse maintenant, c'est plus...
Mais je sais que dans le sujet sur elle, il parlait d'enregistrer juste phonème par phonème pour pouvoir reconstituer des mots entiers. D'accord. Juste avec les... Donc peut-être qu'ils ont fait ça, mais voilà.
Pauvre Simone. C'était bien, c'était vrai.